Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada.
Né à Belfast en 1964, dans un quartier ouvrier catholique de la ville, Robert McLean Wilson entame d'abord à Londres, après des débuts difficiles, des études de littérature. Il a donné des cours pendant 3 ans à l'université d'Ulster et a tourné plusieurs films documentaires pour la télévision britannique, avant de décider de se consacrer entièrement à l'écriture. Il a publié 3 romans, Ripper Bogle, La douleur de Manfred et Eureka Street, des livres formidables d'humanité, de comédie et de drame mêlés. Tous ces ouvrages sont traduits par Brice Mathiossan, publiés chez Bourgois et repris en collection de poche 10-18. De lui, il faut lire aussi son récit enquête sur les dépossédés, mené en Grande-Bretagne pendant les années Thatcher, avec le photographe Donovan Willey. Âgés d'à peine 20 ans, ils se sont rendus auprès des gens en situation de pauvreté. Un récit où McLean Wilson est totalement en empathie, dans la proximité de l'écrivain, avec ceux et celles qu'il rencontre alors, prenant même parfois le ton de l'autobiographie. Préfigurant ses romans, Les Dépossédés est le dernier texte publié en France de McLean Wilson, qui a effectué en septembre 2009 une résidence d'auteur à Manosque, à l'Hôtel Volant, résidence proposée par le Festival des Correspondances de Manosque. C'est là que je l'interroge, lors d'une rencontre publique, sur la place Marcel Pagnol. Il nous parle, avec beaucoup d'humour, vous allez le voir, mais aussi avec profondeur, du sens que revêt pour lui cette résidence, de son travail d'écrivain et de ses prochains textes, attendus depuis longtemps par des lecteurs passionnés et dont on entendra un extrait à la fin de l'entretien.
Que todo lo quema, la luz de tu cara.
Je m'appelle Tom Hanks. C'est ça? Ouais. Non, mais vraiment, je m'appelle Tom Hanks.
Robert McLean Wilson, tu es le plus grand écrivain irlandais vivant.
Il y a un mec qui s'appelle Colin McCann qui serait vraiment un peu énervé par ça. Et il est assez costaud.
Vivant à Manosque?
Ouais, depuis longtemps.
J'avais pas fini ma phrase. Actuellement, puisque tu es invité pour y accomplir une résidence proposée par les correspondances de Manosque. C'est juste.
C'est un...
résidence d'écriture.
Ouais, résidence de quelque chose. Mais je me suis inscrit à la gym le deuxième jour. Et donc tout baigne. Ouais.
Il fallait ça pour accomplir cet exercice
difficile.
Et le
bronzage sur le toit, chaque après-midi.
La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Manosque, pour les correspondances, il y a 4 ans
3 ans.
3
ouais.
Ah, pas si vieux.
Non.
Tu disais quand même déjà à l'époque que...
J'étais en train de finir.
Tu étais en train de finir. Non, même pas. Tu disais que tu te sentais presque en posture, enfin en tout cas difficile... d'être invité en tant qu'écrivain alors que tu n'écrivais plus ou pas, ou que tu n'avais pas sorti de livre. Alors, maintenant que tu es là pour une résidence d'écriture, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que tu es content d'être avec nous?
T'es ma mère ou quelque chose? Oui, je fais du progrès quand même. Et, en fait, depuis la dernière fois, après... Oh, ça fait longtemps. J'ose pas dire combien des années ça fait depuis que j'ai publié un bouquin en anglais. Et dans ce temps-là, j'ai écrit 3 ou 4 romans qui m'ont pas plu. Et donc j'ai arrêté après 250 pages ou 300 pages. Et si, pour un écrivain, s'il reste un document de cette taille-là, c'est toujours... On est toujours tenté d'utiliser quelque chose dedans. Parce que toujours, il y a des bons moments. Donc, j'ai gaspillé 3-4 ans en essayant de mélanger, de combiner les extraits des bouquins effectivement rejetés, les rejetons. Et c'était juste après Manosque, la dernière fois, que je me suis dit, oh, il faut vraiment les supprimer. et de commencer quelque chose de nouvel. Et j'ai fait ça. Mais ça, c'était il y a 2 ans et demi. Et maintenant, je suis presque vers la fin. Et j'ai fini un petit roman, tout petit, très, très faible, très, très doux. Et je ne veux pas le publier seul, parce que c'est plutôt petit et mignon et faible. Donc je voudrais publier deux en même temps. J'ai fait ça avant en anglais et ça a bien marché parce que l'un protège l'autre. C'est un peu comme les jumeaux. Pas dans ma famille, franchement. Mais... Donc, ouais, I'm gonna finish tomorrow. Yeah.
Demain.
Ouais, demain. C'est toujours demain. Ouais.
Tu es installé à Manosque depuis début septembre. Tu t'installes dans la ville. C'est important, on va parler de ça parce que on te connaît déjà à Manosque. On t'a vu dans les bars, dans les bureaux de tabac, parler football, musique.
Je bois jamais.
Dans les salles de sport. On te voit dans la ville. Tu occupes la ville. J'ai des témoins.
Oui, je sais. Ouais.
Et ça m'intéresse de savoir comment tu as plongé dans cette ville, parce que tu connais, tu as l'habitude des grandes villes. Tu vis à Paris, tu as l'habitude de Belfast, Londres, Glasgow, c'est des villes que tu connais de l'intérieur. Là, c'est un autre format, je dirais. Comment est-ce que tu as appréhendé cette ville en tant que personne et en tant qu'écrivain?
C'est sûr que c'était ça qui m'a impressionné au début, c'était la taille de la ville. Parce qu'avant, j'ai cru que vers 50 000, ça serait le minimum. Ça serait la taille parfaite pour une ville. Quelque chose comme Arles ou vous voyez quelque chose pareil. Mais après une semaine, je me suis rendu compte que ici, s'il y en a... Il y a combien de gyms? Il y a 5 ou 6 ou 7 gyms, y compris les gyms de Star Trek. Il y a une nouvelle qui est ouverte là, bon, dans les banlieues, très loin. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabacs que je connais. Même un qui est ouvert le dimanche. Donc c'est beaucoup plus civilisé que le 10e à Paris, où c'est impossible, il faut voler les clopes dimanche. Et j'ai ma bagnole ici, et j'ai voyagé un peu dans la région, et j'ai bien remarqué qu'avec cette taille-là d'une ville, la campagne, c'est assez lié avec la ville. Les gens qui vivent dehors, à une distance de 10 km, ils se sentent un peu manosquins ou manosquines. C'est joli ça, manosquine. C'est le vrai mot, non? Si. Et ça, c'est plutôt fascinant pour moi, parce que comme quelqu'un vraiment urbain, la campagne, la ville, c'est séparé, vraiment. Donc, j'ai appris des choses quand même ici. Et j'ai vu pas mal des pigeons qui me scrutent. C'est bizarre, mais qu'est-ce que se passe avec les pigeons ici? Je deviens un peu parano, parce que chaque soir, je suis là devant ma fenêtre en train de bosser, et il y en a 15, 20 en face de moi, 2 mètres comme ça. Et le mot scruter, c'est parfait, parce qu'ils me scrutent. Et d'abord, c'était moi. Oh. Ok, des pigeons, mais maintenant c'est un peu ironique, c'est un peu. Et ouf, c'est une vie vraiment isolée, la vie d'un écrivain. Oh Jesus, here we go.
C'est parce que ce sont des espions des correspondances pour voir si tu écris vraiment.
Ouais, c'est
je
ça.
Pense
ouais.
Que, je pense que c'est ça.
Je crois. Ouais.
Alors, on va essayer de rentrer dans ce travail que tu peux faire ici, puisque tu es là en résidence. Alors, un écrivain en résidence, un écrivain qui travaille, ce n'est pas forcément un écrivain qui écrit. Peut-être que ça, tu peux en parler, ça se nourrit, ou c'est un moment où les choses se concrétisent et se mettent sur le papier. À quel stade tu en es et comment, justement, cette déambulation que tu peux faire dans la ville influe sur le travail en cours?
Énorme, mais absolument énorme l'influence, parce que le nouveau roman, c'est l'histoire de quelqu'un, c'est un voyage à pied, c'est un pèlerinage, c'est le mot, mais sans destin. Et effectivement, il marche vers le soleil, vers le sud. Pas le sud de la France, mais le sud de quelque part. Et donc, le fait que je suis venu ici, et je suis plutôt nordique quand même, j'ai jamais vu dans ma vie toutes les phases de la Lune dans un mois avant ici. It's incredible! Mais ça change! On peut le voir! C'était pas mythique, after all. Donc, ça m'a assisté de voir les détails que franchement, on ne peut pas inventer. Je me lève vers 5 heures de mat ici. Et dans les grandes villes, je suis très paresseux. C'est 10 heures de matin, parfois un peu plus tard. Et c'est simplement à cause du fait qu'il y a du soleil. Le ciel est bleu. It's blue. You've got blue sky. Et ça change pas mal des choses. Ça semble comme quelque chose assez quelconque à dire, mais on ne peut pas exagérer comme c'est exotique pour quelqu'un comme moi, qui a vécu toute sa vie sous les ciels gris et très bas. En fait, on peut toucher les nuages à Belfast, parce qu'il vient direct de la mer, il reste, mais des mois. Toujours 11 degrés et toujours il pleut. 11 and cloudy. Yeah, that's what I remember. C'est ça le ouais, sur le radio. Yeah. 11 and fucking cloudy. Oh. Et lié avec ça un peu, la façon de vivre ici m'a aussi assisté, parce que je suis quand même irlandais, ça veut dire britannique, et ça veut dire américain, franchement. La bouffe n'est pas bien, et oui, comme gamin, c'était difficile pour moi et mes camarades de savoir, par exemple, les pêches, les pêches viennent des arbres ou direct de la terre. Les gamins de Belfast ne savaient pas. Et ici, on est beaucoup plus lié au monde de nature. Alors, il y a des marchés, on ne mange pas les trucs de grande surface, normalement. Et les trucs sont saisonnels. C'est mon père. Et de ouvrir un espace pour ça dans le cerveau, ça change pas mal de choses aussi. C'est pas complètement simple. C'est un truc quotidien, mais ça change pas mal des pensées assez profondes. Qu'est-ce que je raconte? Désolé, j'ai bu à 2 verres de rosé avec le déjeuner là. Énorme, comme ça. Et je bois pas.
Cette atmosphère. Le dernier livre qui est sorti en France, c'est Les Dépossédés. C'était le premier. On les a découverts dans le désordre en France, tes ouvrages. C'est le premier texte que tu as écrit.
Non.
Publié?
Non.
Non plus. Non. Tout est faux.
Ah, c'était le troisième.
Troisième.
Ouais, mais c'était publié en même temps que le deuxième. Donc
d'accord.
C'est dur.
Plutôt au début,
c'est
on va
pas
dire.
Grave, pas de souci.
Et bon, on les découvre dans le désordre, mais en même temps, comme c'est le dernier publié après, en traduction en tout cas, après tous les autres, pas mal de lecteurs ont eu l'impression que ça donnait un peu certaines clés de ton travail de romancier. Et en particulier, justement, ce qui pèse sur les villes que tu as connues, sur les villes qui sont explorées là dans leur... bas-fond, je dirais, Londres, Glasgow, Belfast, avec cette difficulté qu'ont les gens à vivre. Et bon, ça explique les autres livres, qui sont dans une certaine noirceur, mais aussi avec des moments drôles et des moments lumineux. Donc moi, ce qui m'interroge aujourd'hui, c'est de savoir si, après cette longue... hésitation de plusieurs sujets, après ce déplacement géographique, après cette lumière différente, si l'atmosphère qu'on va trouver dans les prochains conserve cette lourdeur, cette noirceur qu'on peut trouver qui part des dépossédés.
C'est une bonne question. Moi, j'aime pas les bonnes questions. Je suis prolétaire et ça explique pas mal de choses. La plupart des écrivains sont assez bien élevés et privilégiés, mais il y en a plusieurs qui sont prolétaires. Et on peut voir très facilement que s'il y a des écrivains qui ont vécu dans la misère pendant leur enfance, par exemple, que c'est un sujet qu'on peut presque jamais laisser tomber. Ça dure vraiment. Et pourtant, le fric, l'argent, c'est vraiment le sujet du roman. C'était inventé, le roman, pour expliquer la ville et l'argent. Les Anglais du 19e siècle, les Français après, et puis les Russes, c'était que ça, la ville et l'argent. Là, c'était la structure du roman. Donc, on ne peut jamais éviter de parler un peu de ça, parce que, tu vois, il y a des questions assez simples parfois que les lecteurs posent dans la première page d'un bouquin. Il y a un personnage, il a quel âge, son apparence c'est quoi, et il a combien d'argent. C'est toujours ça. Parce qu'il faut placer le personnage dans le monde. Et dans le nouveau, j'ai un peu essayé d'éviter mon chemin normal, mais un peu déceler encore les traces de mes obsessions, de mes faiblesses, de mon manque d'imagination, franchement. Parce que c'est là, et c'est important.
De ton attachement au réel aussi, manque d'imagination, ça, c'est une manière négative de présenter les choses, mais c'est pas tout à fait vrai que le dernier texte qu'on ait lu, c'est Les Dépossédés, parce que j'ai lu, moi, l'entretien que tu as fait avec Dominica pour Les Inrecuptibles, le magazine, auprès des SDF chez Emmaüs. Et on voit que c'est la même préoccupation, que c'est encore une fois la ville et c'est encore une fois la pauvreté, mais c'est le réel et vous allez vous coltiner tous les deux à ça en tant que créateur, mais parce que ça vous préoccupe tous les deux. C'est pas enfin, je pense pas que ce soit un manque d'imagination d'aller chercher toujours ça, c'est que c'est quelque chose qui est une vraie préoccupation.
Ah oui, mais c'est là, on peut pas l'ignorer quand même. Et c'était assez marrant d'essayer ça en France, parce que je connais rien de la politique en France et je parle français comme un gamin de 5 ans. Donc il faut être... Non, mais franchement, je ne peux pas m'exprimer dans cette langue. Et en Angleterre ou à Belfast, si je fais quelque chose comme ça, je me sens assez qualifié. Mais ici, c'est dur. Mais ça, en fait, ça ajoute quelque chose. Il faut vraiment... Oui, comme maintenant, je peux pas m'exprimer comme je peux en anglais. Donc, il faut trouver une autre façon d'être clair ou simple. Et c'est pas mal comme jeu. J'apprends des choses, même sur mon anglais. Mon français est très mauvais, mais je me suis rendu compte assez récemment, c'est le cas avec mon anglais aussi. Parce qu'il y a des choses que je peux pas expliquer en français, ni en anglais. Voilà, c'est... Une aventure avec une langue étrangère, c'est une épreuve, mais parfois ça donne des regards sur la langue maternelle qui est inattendue, inédite. Ça se dit, inédite? Je suis assez fier de ça, franchement. Ouais. Ouais, je me targue de ça. Ouais.
Il a du vocabulaire. Hein. Je vais lire un passage des Dépossédés. Les sans-abri supportent, en français, donc c'est. Voilà. Les sans-abri supportent une dure réalité d'insécurité sociale. Il est presque impossible de décrire adéquatement l'isolement des sans-abri. Ma propre expérience de l'indigence a été une expérience impossible à associer à une quelconque des autres périodes ou parties de ma vie. Les indigents vivent dans une dimension très éloignée de celle où nous vivons. Le monde est différent pour les sans-abri. Il est froid, humide, dangereux, solitaire, marginal. Il a peu de ressemblance avec la vie, en cette fin de XXe siècle, telle qu'elle est vécue par la plupart des habitants de l'Europe de l'Ouest. Peut-être que le mode de vie des sans-abri est le seul aspect de la pauvreté que la fiction peut prendre en compte. La vérité révélée de la fiction est parfois une vérité plus forte qu'un fait trop terrible pour qu'on puisse vraiment le comprendre. Il est facile de considérer l'indigence comme un phénomène entièrement indépendant de notre propre mode de vie. L'empathie nécessaire du roman constitue peut-être l'une des seules voies d'accès à la compréhension d'un tel phénomène.
J'ai raison. Ah, ça me fait penser à Knut Hamsun. Knut Hamsun, qui a écrit La fin.
La fin.
Il était un mec infréquentable, mais vraiment un nazi, qui a écrit le chef d'œuvre sur l'expérience d'être STF. Mais c'est un bouquin énorme et on ne peut pas nier la qualité de ça. Il y a un moment dedans, et moi qui étais STF presque à la même âge, je peux dire que c'est ça, il a capturé le truc, mais complètement. J'étais jaloux, j'ai lu ça, après j'ai écrit mon STF bouquin, mon bouquin STF. Et c'est assez intéressant, par exemple à propos Céline, monsieur Destouches, qui est toujours l'exemple de quelqu'un mauvais, avec du talent. Mais en fait, c'est pas lui, c'est Hamsun. Hamsun, this terrible man who wrote a masterpiece. Et il faut le lire parce que c'est vraiment c'est le sine qua non latin. Ouais, sine qua non. Sans ça, il n'y a rien. Et franchement, il faut être humble. Devant ça, les autres sont pas nuls, mais c'est pas la même chose.
C'est le plus terrible pour toi.
Ah, lui, ouais.
Le plus terrible dans cette dissociation entre un livre
et
un comportement,
même croyance,
un projet artistique.
Ouais. Il y a plusieurs, mais lui, il était. Je pense aussi à, il y a pas mal des écrivains du 19e siècle qui étaient comme Anthony Trollope en Angleterre, les gens de droite, conservateurs, qui avaient envie d'écrire les romans qui étaient que des éloges des aristocrates. Et il était un peu libéré par la forme. Et par hasard, il a écrit les meilleurs personnages féminines dans l'histoire de romans anglais du 19e siècle. Il n'a pas voulu de faire ça. C'était juste la forme. Le roman a fait quelque chose à ce mec. Et je crois que ça, c'est arrivé avec Knut aussi, mon pote, Knut. Ça, c'est prononcé comment en français? Parce que Knut, c'est... Knut, hein? Mais quel nom? Hi, I'm Knut. Ouais. Comment on peut draguer avec un nom comme ça? Hey, bébé, Knut.
Mais toi, tu revendiques l'empathie, justement, comme tu revendiques cette plongée dans le réel, d'être au plus proche des gens pour essayer d'en faire quelque chose de romanesque, de fictionnel après, qui corresponde à une démarche philosophique, une démarche humaine, morale.
Je peux pas exagérer. Par exemple, je n'ai pas vu les gens dans les Despossédés depuis 10 ans, 12 ans presque. Donc, je ne suis pas trop fidèle à ce modèle-là. Mais c'est un peu que je trouve les gens assez intéressants, toujours, dans ma vie. Et peut-être parce que je ne me prends pas au sérieux. Et non, mais franchement, ça ouvre les yeux aux autres. Parce que je ne suis pas obsédé par regarder moi-même dans la glace. C'est pas mon truc. Et donc, c'est plus facile. En fait, c'est naturel. C'est la prochaine chose. Si on n'est pas occupé avec soi-même, on est libéré un peu, regarder un peu le monde. Ouais. Sorry.
Et là, on le voit, on l'entend, il y a un côté, les gens qui te connaissent, t'apprécies aussi pour ça, parce qu'il y a un côté très plaisant de la rencontre, il y a un côté fanfaron qui ne te prend pas au sérieux. Mais ça, c'est la personne, c'est la manière dont tu es en contact avec les autres. Après, tu parlais de l'écriture elle-même et du sérieux de l'écriture. Ouais. Est-ce que ce côté fanfaron que tu as, je dis fanfaron, mais peut-être que le vocabulaire est...
Cabotin.
Cabotin. Ouais,
c'est le mot juste.
C'est bien. Et revendiqué.
C'est quoi ça en anglais, hein?
Shit. Quand t'es face à ta feuille de papier et à tes pigeons, qu'est-ce que ça donne?
Oui, c'est vrai, c'est un peu la manière britannique. Si on gagne le prix Nobel, parce qu'on a trouvé comment guérir le cancer et le prix Nobel pour la paix et le prix Nobel pour la littérature en même temps, il faut dire, si quelqu'un dit quoi de nouvelle, il faut dire pas grand-chose. Il faut. Et je sais que, par exemple, pour les Allemands, ça, c'est effectivement un mensonge. Quand les Anglais se comportent comme ça, c'est vraiment qu'ils font semblant. Mais c'est juste la manière. C'est self-effacement. C'est un truc qu'on ne peut pas éviter. Sinon, c'est vraiment de dire des choses nettes, de constater. C'est plutôt agressif et prétentieux en anglais. Mais c'est aussi une manière d'éviter les questions, franchement. Et encore, vous avez posé une bonne question, parce que c'était ça, avec le bouquin non romanesque. J'ai passé un peu de temps avec les gens. Je suis plutôt charmant. Je sais comment parler. J'aime bien les gens. Et après, face à le page et moi-même, c'était vraiment un fardeau. Beaucoup pire qu'un roman, parce que dans un roman, mais bien sûr, on peut faire ce qu'on veut faire. Mais là, on était obligé d'être fidèle à la vérité de la vie des gens. Et moi, je ne suis pas qualifié de faire ça. Il n'y a personne, je crois, qualifié d'être absolument fidèle à la grandeur, ça se dit, de la vie de quelqu'un. Et donc, c'était plutôt dur. Et c'est à cause de ça que j'ai écrit que ce bouquin non romanesque. Parce que c'est du boulot, franchement. C'est pas comme un roman qui est facile, qui prend un après-midi. Et ouais, presque.
10 ans et un après-midi.
Ouais, à peu près.
Et pour les personnages de fiction,
no more good questions, ok?
Non, plus de questions. Ça suffit avec moi. Ah, okay. D'accord. Alors,
to my grace. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui évoquent à ton propos Dickens, mais c'est pas une question de moi, mais j'ai l'impression qu'ils aimeraient bien savoir ce que t'en penses.
En VO, Charles Dickens est sans pareil. Moi, j'ai lu toutes les paroles de Dickens. Il a écrit 12, 13 romans énormes et les nouvelles. Et il avait une magazine, Little Household. Il avait deux. Et il a écrit des millions de mots. Et j'ai tout lu. Et il était un mec assez bête. Il était vraiment un peu idiot, Dickens. Mais il n'était pas capable d'écrire une ligne de la langue anglaise mauvaise. Il n'était pas capable. Il a bien essayé, franchement. Mais il ne pouvait pas. Mais c'est d'une beauté inoubliable. Et il y a des gens, Joyce, son anglais, et ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais Dickens, c'était juste là, c'était naturel. C'était vraiment quelque chose au-dehors de son contrôle, sa contrôle. Ah, j'en ai marre de ça. Son contrôle. Et il était vraiment comme un gamin hyper doué. Et oui, il y a une ligne. He walked into the room under a fire of eyes. Il est entré dans la pièce sous un bombardement des yeux. Ça se comprend? Mais c'est tellement joli en anglais. Et je connais trois au moins, écrivains du 20e siècle qui ont fait ça exact, parce qu'ils n'ont pas rendu compte que c'était copié de Dickens. Parce qu'on lit ça, mais on est hypnotisé. Il y a pas mal de gens qui copient Dickens un peu par hasard. Parce qu'il était... Ouah, non mais, oh Jesus. Wow, ok. C'est éloquent quand même. Hein. Non, sans pareil en anglais. Malgré le fait qu'il était un peu bête, ses femmes sont, oh God, terribles. Agnes, oh non. Ouais, un petit génie.
Et quel était son rapport à, je ne sais pas si tu connais aussi la biographie de Dickens, et justement, quel était son rapport au monde? Moi, j'imagine Dickens comme quelqu'un plutôt éloigné de la réalité du monde et qui l'a retrouvé avec l'écriture. Est-ce qu'il était plongé?
Il était éloigné de ses racines par son succès, parce qu'il avait un succès fou qui n'est pas disponible maintenant. Quand il est allé aux États-Unis, il y avait des milliers de gens à New York vers le port là pour l'accueillir. Et les gens ont attendu chaque exemplaire de les journaux avec ses histoires. Il était mais énorme, énorme. Et on peut pas. Tu vois, un écrivain fameux, c'est quoi? C'est comme un épicier fameux. C'est pas vraiment le célébrité maintenant, mais lui, il était presque le mec le plus célèbre d'Angleterre pendant le 19e siècle. Et la misère de son enfance est très loin de ça, mais quand même, au sommet de son succès, il était toujours... Il se promenait pendant la nuit dans les quartiers de Londres, vraiment difficiles, vraiment durs, menaçants, pour toute la nuit, parce que c'était impossible de laisser tomber le truc de son enfance, la misère, la peur, la honte chez lui, de la misère, parce qu'il a trouvé son enfance vraiment honteuse, malgré le fait que, bizarrement, il a écrit l'histoire de son enfance en deux ou trois de ses romans. Donc, je trouve ça vraiment plutôt émouvant qu'il n'a jamais oublié. Et on peut voir dans son anglais, quand il écrit un personnage riche, c'est un peu quelconque. Mais dès qu'il y a quelqu'un prolétaire ou un peu dans la merde, le temps... Non, pas le temps monte. Le jeu, ça monte. Ouais. C'est pas plus précis, c'est plus impassionné. C'est plus beau. C'est plus belle, la langue, immédiatement. Parce qu'il est plus intéressé aux gens dans la misère. Qu'est-ce que j'ai dit?
C'est ce que tu disais de la force de l'écriture tout à l'heure, de la justesse de l'écriture.
Ça libère parfois, ça ouvre des choses.
Et tu te sens proche de cette attitude? Tu disais tout à l'heure, en parlant du rapport à l'argent dans les villes et de cette expérience, de cette proximité que tu as eue avec et que tu as finalement, même si ça fait 10 ans que tu les as pas vus ceux-là, mais tu en as vu d'autres en France avec les pauvres, ça te marque toujours, c'est toujours présent. Tu te sens proche de cette attitude d'écrivain par rapport à la réalité du monde?
Oui, je crois, parce que c'est sûr que je hais l'inverse. Je hais les écrivains qui disent d'un personnage, il était un peu n'importe quoi, avec des chaussures dans le marché, d'un magasin minable. Et pour, pour illustrer les traits d'un personnage par le manque d'argent, ça me rend fou tout ça. Et en Angleterre, c'est un peu le cas. Maintenant, c'est un peu déprimant. Les gens se moquent les écrivains se moquent des gens avec les goûts plouques. Et c'était pas comme ça il y a 20 ans. En fait, les écrivains n'oseraient pas de faire ça. Après les années 60, 70, c'était hors de jeu. Mais maintenant, ça arrive encore. Et ça me fait chier. Franchement, ça, c'est fermé, ça. Je trouve... Il y avait quelqu'un, je ne dis pas le nom, qui a décrit le mariage de deux jeunes pauvres. Il a parlé du prix de la bague, parce que ça a coûté 15 livres, 20 euros. Il a trouvé ça, mais moche et minable. Et par contre, moi, j'étais ému par ça. Et j'ai trouvé ça un peu sexy quand même. Tu vois, c'était un peu vif, un peu... Je sais pas, mais c'était pas l'opportunité pour le mépris.
À l'air libre, Pascal Jourdana et Robert McLean Wilson en rencontre publique aux correspondances de Manosque.
On sent des fois que tu es en colère contre un certain profil d'écrivain. Ça ressort dans les livres, il y a des portraits, enfin dans Eureka Street, il y a un portrait d'un écrivain irlandais, poète, qui n'est pas piqué des hannetons.
I don't speak French, is there a translator? J'attends.
Je peux lire le passage d'ailleurs, un des passages. Max s'est approché de nous avec un livre. Irhe suivait à contre-cœur dans le sillage de son ami. Max a souri. C'est le lancement de ce nouveau livre. Il paraît qu'il est excellent, dit-elle en me le tendant. Qui l'affirme ? Demandai-je, très grammaticalement correct. Chucky a toussé et cette brave Irhe s'est préparée à me répondre. J'ai plongé le nez dans le bouquin pour éviter son regard. Naturellement, me lança-t-elle d'une voix acide, je ne m'attends pas à ce que tu soutiennes le moindre écrivain appartenant au mouvement, mais même toi, tu ne peux pas nier la réputation de Shagagintos. Sans blague. Il y a un très beau poème de lui à la première page, intervient Max avec enthousiasme. C'est bien qu'un écrivain de sa réputation soutienne un livre comme celui-ci, tu ne trouves pas ? Je parie que je peux le réciter sans l'avoir lu. Chucky sembla impressionné par ma déclaration. Parfois, la dérision lui passait par-dessus la tête. Les narines d'Ira frémirent. Non, je n'y arriverai pas. Je transmis le livre à Desely, ouvert à la première page. Donald adopta une expression pédagogique. Je me suis raclé la gorge. Le blabla sous le bla brun des haies blabla. Du dos de ma pelle, je lui ai blablaté le bla. Le bla doré bla est le long des courbes du paysage, avec tout le blabla des blablatiers noirs.
Et il a gagné le prix Nobel.
Il a gagné le prix Nobel, un écrivain irlandais. Alors son nom est, c'était dans pas Shagantos, mais vous le reconnaîtrez peut-être facilement.
C'est le fameux Seamus Heaney. Qui, voilà, c'est pas moi.
T'as la dent sévère quand même.
La poésie en Irlande était assez politicized. Plutôt nationaliste. Et moi, j'ai le droit de lutter contre ça parce que je suis catholique et prolétaire. Donc, je peux dire ce que je veux. Ils sont des connards, franchement. Mais vraiment, parce que si on est catholique, et en tous les gens, c'est parce que les gens, parfois, méritent d'être tués. Ils sont des gens mauvais. Par exemple, les soldats britanniques. Tu vois, les jeunes gens de Manchester, Liverpool, Glasgow, de 18, 19 ans, les mecs, franchement, prolétaires comme moi, qui ont vécu dans les villes où le choix était, à l'âge de 16 ans, était entre être chômeur ou soldat. Et ce n'est pas un choix, là. Donc, ils étaient effectivement conscriptés. Effectivement. Ce n'était pas la loi. Et j'en ai marre des gens qui expliquent pourquoi il faut tuer les soldats britanniques. Et en fait, c'est le boulot de pas mal des poètes irlandais. Et en plus, il y a un médecin ici, mais je ne vais pas le consulter. Mais la poésie, c'est très mauvais pour la santé. It's carcinogenic. Ça, non. La poésie, oui. Ça me fait du mal. C'est quoi avec les nuages et les poètes? Les nuages, c'est toujours les nuages. I saw a lonely cloud.
Qui est-ce qui a parlé des phases de la lune tout à l'heure?
Ah, ça c'est autre chose. Franchement, c'est la science. Et c'était intéressant.
Alors, à part les nationalistes, poètes, écrivains irlandais, quand même, quand tu parles d'écriture, on sent que dès qu'il y a quelque chose d'artificiel ou de surfait ou d'éloigné de la réalité chez un écrivain, ça t'énerve.
J'aime pas trop magical realism ou les histoires avec les spectres, ghosts. Don't like ghosts. Mm. Et dans le nouveau que j'ai fini, le petit, il y a 400 ghosts. En fait, ça tourne autour des ghosts.
Des fantômes.
C'est un peu déprimant, ça. Mais c'est très lié à la réalité des ghosts. Ouais, parce que ça existe. Oui, j'en ai marre un peu de... avec l'exception. Non, mais franchement, ça m'a rejeté. Ça n'a rien à voir, le truc de la magie dans ça m'a rejeté. Ça, c'est autre chose. Il est impeccable. Il est vraiment un grand écrivain. Il est peut-être le meilleur écrivain vivant en anglais. Il est... massive. Super.
Salman
Rushdie. Ouais. Midnight's Children, les enfants de minuit. Mais son meilleur, c'est la honte. La honte, c'est énorme. Ça s'appelle la honte en français, shame. Ouais. C'est peut-être le roman parfait. C'est pas long et c'est juste bien joué. C'est fait. It's done. It's really done. Il a fini le bouquin et il y a très peu de romans qui sont vraiment finis, achevés.
Mais c'est aussi parce qu'il y a une vérité de au fond humaine,
ouais,
même s'il y a de la magie dans les thèmes. Mais c'est ça que tu vas chercher dans la littérature.
Ouais. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Et on peut pas donner les écrivains de la Colombie, par exemple, parce que j'étais là-bas et je me suis rendu compte que les choses fantastiques dans ces bouquins c'est un documentaire parce que c'est bizarre là-bas. Donc parfois, si c'est quelque chose qui est loin de mes expériences, il faut penser peut-être c'est parce que le monde est un peu différent là-bas. Mais chez les Europeans, ça m'énerve. Ah, mais chez les Irlandais surtout, ghosts. C'est toujours les ghosts catholiques, hein, en plus. Pourquoi jamais les pauvres protestants? C'est pas juste.
Cette violence qui est présente dans Eureka Street, est-ce qu'elle te marque toujours? Est-ce qu'elle est toujours, comme pour la pauvreté, est-ce qu'elle est toujours en toi? Est-ce que de descendre vers le soleil et le sud, le ciel bleu, te la rend un peu plus inconsistante? Est-ce que tu l'oublies un petit peu ou pas?
J'étais tenté de taper quelqu'un hier soir. Et j'ai 45 ans. Je suis très bien éduqué. Et j'ai tenté de taper quelqu'un hier parce qu'il se moquait de mon accent. Et j'étais là. Ouais, à la pointe. C'est honteux. La dernière fois que je me battais contre quelqu'un dans un bar, c'était il y a 3 ans, à l'âge de 42. I was gay-bashed. Les mecs, là, ont dit « T'es pédé, toi ?» Et je n'étais pas capable de dire « En fait, non. » J'ai dit « Ouais, et là ?» Et je me suis rendu compte, après j'étais jeté par un mur, qu'à l'âge de 42 ans, c'est un peu naze, franchement. Mais c'est là, dans mon sang. Mon frère, qui est presque bien élevé pour une de mes familles, il est médecin. Il est beau, mignon, il est hyper, il est très propre et bien habillé. Et la dernière fois qu'il a fait ça, c'était ouais, il y a 2 ans, à l'âge de 34 ans, comme médecin. Ouais, c'est irlandais, mais ouais, tout comprendre, c'est tout pardonner. Mais quand même, je peux faire le modèle de masculinité ici, où les gens peuvent s'engueuler, mais ça passe jamais à l'acte. Pas jamais, mais pas souvent. Moi, à Paris, quand les gens marchent trop proche à moi, je me sens agressé. Mais non, mais je trouve ça vraiment quelque chose de déprimant, qui m'énerve. Mais ça va disparaître. Je vais voir le médecin. Et je vais prendre de Ritalin. Parce que ça marche pour tout. Hein.
La douceur dont tu parlais tout à l'heure pour le petit roman court, elle vient de là, elle vient de cette... de ce changement de climat, de lieu, de rapport à l'urbain.
Pour être honnête, cette tendresse vient du fait que c'était le seul bouquin que j'ai réussi d'écrire sous l'influence de la drogue. À l'époque, j'étais accro de... comment dire, l'amphétamine bonus. Jesus, même en anglais. Tu vois, speed extra. C'est quoi ça?
Ouais, mais personne ne connaît ça.
Ouais, non. Ouais, c'est américain. Comme les Français sont bien élevés quand même. Et donc, c'était toutes les nuits, j'étais là, mais hyper excité. Et j'ai un côté un peu bizarre. Je fais ça jamais maintenant. C'est fini, mon histoire avec tout ça. Mais quand j'ai pris de la drogue... Dans toute ma vie, je suis devenu immédiatement, mais très civique. Par exemple, il y a 12 ans, non plus, j'avais 30 ans, et juste à côté de chez moi, il y avait un trottoir un peu abîmé. Et, ah oui, c'était la cocaïne, l'amphétamine, et quelque chose d'autre. Et j'étais là avec un ami, complètement, je marchais à côté de mes pompes, et à 4 heures du mat, on était là pour réparer le trottoir avec nos marteaux. Parce que, tu vois, pour les seniors, c'est un peu difficile, ça. Donc, c'est pas du tout rock and roll, you know? La drogue, pour moi, c'est vraiment... Ouais, il faut agir. Ça vient un peu de ça, mais c'est aussi parce que c'est l'histoire d'un vieux mec à Londres, encore. Le bouquin que je déteste, c'est l'histoire d'un vieux mec à Londres qui est en train de mourir, to die, c'est plus facile. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis l'âge de 26 ans, j'étais obsédé par les vieux mecs. Je me sentais comme un vieux mec, parce que j'ai publié mon premier bouquin à l'âge de 24 ans, et ça m'a vieilli. Et 2 ans après, je suis devenu un prof dans une université à... En fait, plus jeune que la moitié de mes étudiants, et ça m'a aussi vieilli. Donc, je me sentais toujours lié avec cette période de la vie. Et c'est ça. Ouais, c'est bien ça.
Arrête.
Et son frère jumeau qui est plus gros, alors, et qui est plus.
C'est un peu son frère jumeau, ouais. C'est un peu quand même.
Ouais. Le deuxième livre dont tu parlais tout à l'heure, celui que tu sors en même temps que le petit.
Non, ça n'a rien à voir, le petit. C'est depuis que je suis venu en France, je suis obsédé par. Je viens d'une île, ok. Ireland, c'est une île, et on est séparé de l'Europe par une autre île, Grande-Bretagne, Britain même. Tu vois, on est vraiment isolé. Donc, depuis que je suis venu ici, je suis obsédé par le fait que je peux marcher jusqu'à Vladivostok. Non, mais franchement, ça change complètement la tête. Parce qu'en Irlande, on peut marcher pour 3 jours. Et c'est fini. Mais je peux marcher à Vladivostok, à Mumbai. Fuck me. C'est incroyable, ça. Je suis tenté, mais pour l'instant, parce que j'ai mis ma bagnole là, dans le parking, gratuit. Et à mon avis, c'est, les choses comme ça changent la tête, vraiment. Elles font quelque chose au cerveau qui est vraiment invisible. Ça m'a changé pas mal de choses. Mais le jour après, le lendemain, c'était OK. Je respire dans une autre façon qu'en Irlande. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. It's loin de mes expériences avant. Et c'est obsessionnel. Je pense à ça, mais ouais, c'est quotidien. Chaque jour, je peux marcher. J'ai un côté nomadique.
Ouais. Nomade.
Et comme tout le monde, je crois. Nomade. On est tous nomades, je crois. Et on trouve les histoires de nomadisme fascinantes. La Seigneur des Anneaux, qui a fait, qui était un succès fou comme bouquin et puis comme film, c'est quoi? Ils marchent. Ils arrêtent. Ils mangent. Ils marchent encore. Ils dorment. Ils marchent. Ils se battent. Ils marchent. Et puis, ptoum, avec l'anneau. Mais c'est que ça. C'est simple. C'est direct. C'est un peu manichéen. Mais on le lit parce qu'il y a de progrès. On bouge. Yeah, mine is an updated version of Lord of the Rings. Oui. Avec plus de sexe oral. Franchement.
Donc, le prochain livre de Robert McLeod-Missold, c'est Le Seigneur des Anneaux, version sexe. C'est ça? Et c'est ce que tu as apporté dans ton ordinateur?
Ah, yeah, yeah, ok.
Ah. On va...
ah oui, c'est ça.
Parce qu'il faut quand même qu'il prouve qu'il est en train d'écrire. Donc, je vais demander d'apporter son manuscrit. Peut-être qu'il va nous lire une page de Dickens et on ne va pas s'en rendre compte. Le manuscrit chauffe.
Je peux chanter. Hein?
Ah voilà, oui, oui, tu as promis de chanter même.
I want to live in America. Lots of blessings to America. Ah, Jesus, it's working.
C'est un peu abîmé, mon ordi, parce que j'étais tellement en colère. Il y a une semaine, j'ai enlevé les clés à Y, G et H. Et en anglais, tu vois, through.
Donc, j'évite le mot « through ». C'est trop difficile. Comme je suis...
Ok. En fait, c'est Pérec, ton prochain livre.
Ouais,
c'est
ouais,
la
ouais,
disparition.
Ouais. Ouais.
C'est, le pas grand le, George, c'est pas le Seigneur ouais, des Anneaux. Ouais,
ouais. Qui est vachement bien traduit en anglais. Ouais. La vie, une mode d'emploi, en anglais, c'est magnifique. Mais c'est pas la peine pour vous, ouais. Je crois. Ah, ok. Donc, en anglais, désolé. Je peux traduire, mais je ne crois pas. Ok.
On demandera peut-être
de
résumer le passage dans la traduction.
Ouais. Le jour se lève. J'adore ça. Le jour se lève. Le jour se lève. Le jour se lève. Il y a un mec dehors, une ville. Et c'est quelque part. Et c'est une ville avec des murs anciennes. Donc, c'est vraiment comme une scène dans quelque chose de 15e siècle. Le mec, dehors, il a dormi dans la route, là. Et il attend que les portes ouvrent. Mais c'est une histoire de maintenant, de nos jours. Et il y a un chien qui arrive, un grand chien. J'aime pas les chiens, mais celui-ci, oui. Dawn is rising. Night is failing. Outside a town, on a hill amongst hills, a valley shapes gently. The dark is lingering longer and stronger, like dark water in the bottom of a bowl, murky and unstirred. There is a long road cut into that hill. The road leads to the town without seeming to lead away. There is a verge or gap in the long sleeve of small trees through which the road winds. A man waits there. Yes. In an instinct and a gesture that is 500 or 600 years out of date, the man waits silently for the dawn to come so that he can enter the town. He can feel the town walls against him. He can feel how they shut him out, how they prevent.
Con toda palabra.
Voilà, laissons Robert McLeod Wilson terminer la lecture de son texte, un des deux livres dont il peaufine l'écriture ici à Manosque, où cette rencontre publique, réalisée durant le Festival littéraire des correspondances, s'achève. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau À l'air livre, toujours présenté par Pascal Jourdanat et proposé, produit par l'Association des auteurs et lecteurs, premier mercredi du mois, comme d'habitude, et en attendant sur le site de la Grenouille, www.grenouille888.org, page À l'air livre. Vous y trouverez l'ensemble des références des ouvrages cités. Merci à Olivier Chaudançon et à toute l'équipe des correspondances de nous avoir permis de reprendre sur Grenouille cet entretien. À bientôt.
Mirada de ciego, sé que todo desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca.